deux pas de chez toi.
Voir qu'on redonne des sourires, ça fait toujours plaisir.
Votre magazine de reportages, de témoignages, à la découverte de Reims, ses habitants, ses habitantes et de ses alentours.
Faire ce qu'on veut, quand on veut.
On rencontre des personnes différentes, très différentes les unes des autres, et c'est génial aussi.
À deux pas de chez toi.
Pour qu'ensemble nous puissions créer un nouveau monde dans lequel les femmes sont plus solidaires, plus unies, pour créer un monde où règne l'amour, la solidarité, l'entraide.
Prenez le temps d'explorer ce qui se fait sur notre territoire avec Radio Primitive. Bonjour et bienvenue dans À deux pas de chez toi. Cette semaine, on vous parle d'une projection documentaire et surtout d'une rencontre qui aura lieu demain avec le groupe mythique de Reims, les Sogi. Mais juste avant, on vous présente Philomena. Ma vie de senior. Écoutez nos aînés qui se racontent au micro de Radio Primitive. Philomena, la retraite. Alors, parle-nous de ta retraite 2018, c'est ça que tu me disais en dehors des micros.
Oui, c'est ça, de septembre 2018, c'est quand même une étape. Il se trouve que j'avais eu le temps d'y penser avant quand même, depuis le mois de février, je faisais une espèce de compte à rebours en disant voilà, c'est la dernière fois que je fais ça avec une classe, etc. Mais sans pleurnicher comme ça, hein, comme on compte les premières fois, on peut compter aussi les dernières fois. Moi j'ai eu la chance d'être dans une super équipe, une super école, et j'ai toujours... adorer mon métier, mais quand même, place aux jeunes.
C'était quoi ton métier ?
J'étais professeure des écoles, c'est-à-dire institutrice spécialisée au début de ma carrière, et je m'occupais en particulier des enfants qui rencontraient des difficultés. Et la particularité, c'est que en fait, je travaillais en équipe, je ne pouvais travailler qu'après des échanges avec tous les enseignants de l'école, et c'est vraiment ça qui a animé tout le temps... ma façon de voir les choses en réseau, en équipe, avec un regard particulier. Voilà, c'était sur les enfants en difficulté, et aussi d'être à l'écoute de le moindre progrès, je pouvais le mettre en avant et redonner une place à certains des enfants et voir que quand même ça, on peut progresser. Et donc la retraite 2018, j'en ai profité pour être disponible. Pour mon papa, et qui avait besoin de moi. Et puis aussi, je n'ai pas lâché l'école comme ça. Hein. Les premières années, j'étais là sur des coups, genre le printemps des poètes, la semaine des droits de l'enfant. Moi, j'étais dans une école où on faisait beaucoup de théâtre. Donc, quand arrivait mai-juin, il y avait les restitutions au chapiteau de l'hippodrome ou ailleurs. Pour faire un petit atelier. On pouvait aussi, je me rappelle d'une année où, tu sais, il y a des classes de mère de la ville de Reims, et donc, il manquait, quand il y avait vélo et voile, par exemple, pour le vélo, il faut plein d'accompagnateurs.
Ouais.
Et donc, je me mettais à disposition et j'allais, et je retrouvais, là, c'était des années par exemple, c'était des CM1, CM2, c'était encore des enfants que j'avais connus en CP. Puis après, je ne les connaissais plus.
Ah bah oui, après, l'écart se fait. Tu t'es quand même désengagée progressivement. Et c'était quoi ? C'était se consacrer à soi aussi, peut-être, à un moment ?
Oui, voilà. Après, je suis allée vers des choses de mes passions. J'ai rencontré ma maison de quartier, que je savais où elle était. Mais une fois en retraite, j'ai vraiment repoussé la porte. Ma maison de quartier, des trois piliers. En fréquentant la maison de quartier, voilà, le journal de la maison de quartier, le Cafouin, où donc là, ça donnait des rendez-vous presque tous les 15 jours pour concevoir le prochain numéro, et j'y suis toujours. À la maison de quartier, après, bah, il suffit d'une semaine livresque, allez, hop, et on se dit, bah, tiens, on va faire un cercle de lecture. Et puis, ça fait 2 ans qu'il existe, on se voit une fois par mois. Les gens viennent présenter un livre, une poésie, un article, quelque chose qui les a séduit pour le lire aux autres, quoi. Et puis, on partage un petit kir ou un chocolat, et c'est très agréable. C'est des points de rencontre, en fait.
C'est ce que j'allais dire, ça permet de garder un peu le lien social, parce que quand on quitte son métier, souvent on quitte aussi un environnement, des collègues, une vie sociale particulière qui est accolée au travail. Toi, ça t'a permis de rencontrer des gens ?
Oui, alors moi j'ai quand même gardé du lien avec mes collègues. Comme j'ai un jardin, les premières années, on faisait tout, quand la saison était belle, on faisait toujours des repas comme ça. À un moment donné, c'est moi qui disais, on arrête de parler de l'école. Et puis on avait aussi des soirées jeux. Moi, je suis adepte des jeux de société, etc. Des soirées jeux où je retrouvais des membres nouveaux de l'équipe des enseignants. Et puis même la première année, je me demande si je ne suis pas restée un certain temps sur le WhatsApp de l'école où je regardais qu'est-ce qui se disait, qu'est-ce qui allait se faire, etc. ou un truc comme ça. Ça s'est fait progressivement, mais c'est vrai que d'autres portes se sont ouvertes. Un atelier d'écriture, toujours dans ma maison de quartier. Des rencontres. Pendant le confinement, j'ai vidé des tiroirs, j'ai trouvé une boîte de peinture. Je dis, y en a encore dedans. J'ai essayé de peindre un peu. Puis je me suis décomplexée. Je me suis dit, au mois de septembre, après le confinement, je me suis dit, tiens, les beaux-arts, ils font des cours le soir. Je me suis inscrite. Et puis, tu vois, depuis 2020, tous les ans, je me réinscris. Et là, j'ai trouvé aussi un autre groupe. Ouais. Un autre groupe, pareil, dans la création et dans la liberté. Il n'y a pas de niveau, quoi. Tout, des choses qui t'inspirent, une belle équipe. Hein. On a même fait des expos, tu sais, avec atelier d'artistes. Comme le lien avec la maison de quartier fait que, avec une dizaine, on était 14, je crois, des copains, on a envahi les couloirs, les salles, et avec nos toiles. On n'est pas des pros, mais on s'est fait plaisir, quoi. Donc ça c'est vrai. Mais aussi, par exemple, j'ai géré mon temps. Tu sais, avant, l'emploi du temps de la semaine, entre la matinée, tel groupe, ça c'était le travail. Et après, j'avais besoin de liberté, c'est-à-dire que c'était moi qui posais les choses. Et donc, ça m'a amené vers du bénévolat. Les premières étapes, ça a été le festival Orbis Pictus.
Marionnettes.
Les marionnettes. Et donc, la rencontre avec le jardin parallèle. Parce qu'il y a une dynamique, une force de création. Ce que j'appréciais aussi, c'était les apéros du possible. On allait voir des choses en train de se faire. Parce qu'un spectacle terminé, on a tous été voir un spectacle abouti, j'allais dire. Hein. Mais quelque chose...
Mais une étape de création.
Oui,
là,
c'est ça, le côté laboratoire. Et dans le côté laboratoire, j'ai retrouvé quelque chose que j'aimais bien, c'était... Quand des artistes étaient en train de monter un projet, on était un peu comme des spectateurs test, tu sais, dans la boîte noire là-bas du jardin parallèle. À la fin, c'était des rencontres. Alors ça, on connaît aussi, mais c'était des rencontres. On avait besoin du regard du spectateur pour la compréhension, le déroulement. Et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je suis toujours au jardin parallèle pour Orbis Pictus. La première fois, c'était encore au Palais du Thau. Et maintenant, on a investi l'hôtel Le Vergeur et la place du Forum. Ouais. Et cette année, on était à l'hôtel de la Salle. C'était pour la première fois aussi. Et maintenant, je suis même au conseil d'administration du jardin.
Ah ouais, ça, c'est une sacrée position.
Oui, c'est-à-dire que le jardin parallèle a aussi repris le Gourbi, tu sais, dans le quartier Orgeval, qui était tenu par le facteur théâtre. Et donc... Donc ça s'appelle maintenant le Gourbi parallèle, et il y a une volonté de s'implanter et de faire des propositions. Il y a déjà des belles propositions sur le quartier, et donc là il y a besoin des fois de petites mains, donc c'est...
On retrouvera Philomena dans quelques minutes après un choix musical de son cru, Adrien Elie avec La Rose et l'Armure.
Suivant la longue métamorphose qui m'éloigne de mon passé, j'ai croisé une rose qui ne pouvait pas avancer. Pas qu'elle n'ose pas la chose, mais n'y avait jamais pensé. Depuis toujours tenant la pose quand les regards l'éclaboussaient. Elle a la couleur de l'amour, bien que je ne l'ai jamais croisée. Bien qu'à la lumière du jour, les fleurs sont toutes belles à crever. Alors j'ai mis la route en pause, à ses côtés me suis posé. Puisque cette rose semblait mon rose d'être seul au jour achevé. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Suivant la course du soleil avec nos yeux fatigués, on s'est raconté nos merveilles et nos tristesses irriguées. On n'avait pas grand chose à faire, alors on s'est allongé. Avec ma rose, j'ai fait la guerre à mon envie de voyager. Mais au matin, la route appelle, alors je lui ai proposé. Si elle osait me faire l'honneur d'avancer à mes côtés. Même si ton armure est trop lourde, bien qu'elle t'ait toujours protégée, sache que la vie est sourde quand elle ne doit pas nous blesser. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Traversant tous les bruits du monde avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant à chaque seconde de sa douceur et sa beauté. J'ai croisé un ruisseau immonde qui a cru bon de refléter l'image d'un monstre plaie profonde, un guerrier triste et abîmé. Comment ma rose peux-tu subir pareille offense à ta splendeur? Et comment puis-je réussir à oublier quelle fut l'erreur de t'arracher à ton jardin à cause d'un vide dans mon cœur? Mais elle m'arrête et puis m'embrasse, ma rose rit et moi je pleure.
Aujourd'hui, Radio Primitive ouvre ses micros à Philomena.
C'est vrai que la première fois qu'on s'est rencontrés dans les locaux de Radio Primitive, c'est parce que t'es venue assister à un atelier 65+. Alors ça, c'est d'autres activités que met en place la ville de Reims. C'était la première fois que tu participais à une activité 65+ ou pas du tout?
Alors non, j'ai déjà fait... Par le biais de la semaine bleue du mois d'octobre, j'ai déjà fait des autres années des ateliers super intéressants. Et cette année, pour parler de cette année, même si je me suis pris en avance, j'avais tout compulsé, j'avais mis du stabilo un peu partout. Et puis donc, je me suis inscrite dans un atelier qui m'intriguait. Le titre, c'était « Papier bavard ». Ils se sont trompés, c'est « Papier buvard ». Mais non, c'était « Papier bavard ». Et il n'y avait pas grand-chose de plus. Et ce fut l'occasion de rencontrer une personne qui s'occupe de l'intergénérationnel à l'hôtel de ville. Et à la suite d'un atelier d'écriture qui était très intéressant, elle nous a proposé Plume en partage. Bon, alors qu'est-ce que c'est? Alors on nous a proposé, c'est une correspondance écrite sur lettres, papier, crayon. Hein, et donc on correspond avec un étudiant ou une étudiante, on ne sait pas au début. Et ça s'étale entre maintenant, le mois de novembre, ça a commencé, jusqu'au mois d'avril. Et moi, j'ai commencé, j'ai déjà envoyé ma première lettre. Là, je surveille ma boîte aux lettres, je vais recevoir bientôt un courrier. Et donc, j'écris, je ne sais pas à qui, parce que moi, j'écris à la Ligue. Ma lettre, elle part à la Ligue de l'enseignement, qui est partenaire. La Ligue de l'enseignement met ma lettre dans une autre enveloppe, puisque elle connaît le destinataire qui m'est attribué. Et voilà, on va avoir des échanges. On se rencontrera. Il y a une rencontre de prévue fin janvier et une autre en avril. Donc, faut dire que c'est à la fois stimulant. Moi, j'adore écrire. J'écris sur l'ordi, mais j'aime bien écrire en vrai. Et voilà, j'attends. J'attends la rencontre, au moins sur papier.
Le tout, c'est de rester curieux dans la vie.
Ah oui, curieux de tout, parce qu'en fait, je crois que mon métier m'a appris ça, c'est-à-dire à avoir un regard constructif, un regard en disant « ça n'a pas bougé, ah bah si, là, c'est plus pareil, quoi ». Et j'ai retrouvé ça dans les ateliers des Beaux-Arts, Je sais pas si je me suis améliorée en peinture, mais je trouve que mon regard a changé. Je vois des choses sur des écorces d'arbres ou même dans un musée sur une grande toile, mais je vois des choses que je n'aurais peut-être pas vues avant. Et ça, c'est la curiosité des choses et des gens. Mmh. Des gens, parce qu'on a le temps.
Bah oui, c'est vrai, de faire connaissance, d'aller plus loin.
Oui, c'est vrai, on n'est pas pris par plein d'autres tâches. Donc, de ce côté-là, la curiosité, c'est ce qui fait du relief dans la vie. Quoi.
Ma vie de senior. Écoutez nos aînés qui se racontent au micro de Radio Primitive. À deux pas de chez toi. Notre prochain sujet sur Radio Primitive est d'actualité. Demain, vous pourrez rencontrer un groupe phare du rock rémois qui en a eu des aventures, les Soggy. Le samedi 13 décembre prochain, la médiathèque Croix-Rouge vous propose de revenir sur l'histoire d'un des groupes les plus rocambolesques de Reims, les Soggy. Avec la diffusion du documentaire sorti en 2018, Soggy, un truc de dingue, réalisé par le batteur du groupe, Olivier, c'est l'occasion de redécouvrir cette formation et son chanteur Beb, qui a marqué plus d'une génération. Radio Primitive a profité de l'annonce de cette projection pour aller rencontrer Beb et Olivier des Soggy et refaire un petit bout de cette histoire pour vous. Mais avant cela, c'est Fred de la médiathèque à l'origine de ce prochain rendez-vous qui nous accueille.
Alors donc moi je suis discothécaire, hein, c'est-à-dire bibliothécaire musical, voilà, avec mon complice Louis Pouvel, qui accessoirement est un musicien un peu connu dans le milieu rémois. Donc on est deux à gérer le fond de CD, alors qui périclite, hein, les prêts ça se casse la gueule là, vu que le support est un peu amené à disparaître. Et heureusement, pour garder la musique vivante en bibliothèque, on prête depuis 2019 des instruments. Donc ça, c'est un grand carton, des guitares, des basses, des amplis, des claviers. Et également, on a fait un petit retour en arrière en prêtant du vinyle. Là, les gens commencent à savoir qu'on prête du vinyle et effectivement, les prêts là augmentent. Surtout depuis qu'on peut, du fait du transit entre les bibliothèques, réserver un vinyle et le réceptionner, par exemple, au centre-ville, à la médiathèque Falala ou dans une annexe, quoi.
Et en plus, tu organises des projections alors ?
Alors, j'organise des projections, enfin, pas que des animations autour de la musique. Hein, ça peut être faire venir un musicien. Par exemple, là, il y a une semaine, on avait Fred Chapelier, le guitariste, là, qui nous a fait l'honneur d'une deuxième visite. Et qui est un mec super humble, accessible, c'était assez génial, quoi. Et effectivement, de temps en temps, une projection. Alors, moi, ce que j'aime. Aussi, il me semble que ça fait partie de mes missions, c'est de mettre en avant le patrimoine culturel, musical, rémois. Par exemple, l'année dernière, à l'occasion du cinquantenaire du concert un peu mythique qui a eu lieu à la cathédrale, qui était organisé par le MAR, Musique Action Reims, en 74, hein, qui a fait un esclandre total, parce que y a des gens qui étaient outrés. Vu que les gens fumaient des joints dans la cathédrale, ils ont retrouvé des seringues, là c'était un scandale, quoi. Et donc, à l'occasion des cinquantenaires de cet événement, j'ai fait venir le réalisateur d'un documentaire, monsieur Benoît Garel, qui avait tourné avec des images d'archives et qui avait fait des interviews de personnes qui ont participé. Donc ça a eu lieu l'année dernière. Et cette année, j'ai le plaisir là d'organiser une projection, donc samedi 13 décembre à 14h30, autour de l'histoire un peu extraordinaire du groupe rémois Soggy.
C'est trop rigolo parce que c'est un groupe qui fait, comme tu le dis, partie de l'histoire rémoise, même si on ne connaît pas forcément tous les détails de cette histoire. Et donc toi, tu vas passer le documentaire.
À la base, ça s'adresse à qui tu... c'est aux passionnés de musique ou c'est aussi pas que adressé?
Pas forcément. C'est tellement rigolo comme histoire. C'est vraiment funky, improbable. C'est un espèce de retour à la Sugarman. Alors, je sais pas si ça parle à tes auditeurs. Sugarman, c'est Sixto Rodriguez. Donc c'était un type d'origine mexicaine qui a sorti deux albums au début des années 70, du folk rock, plutôt de bonne facture, mais qui est complètement passé à la trappe, quoi. Et donc le gars, dépité, en 72, il a arrêté de faire de la musique, et sans savoir qu'il devenait culte, notamment en Afrique du Sud, alors sous l'apartheid, hein. Donc c'est les fils un peu bourgeois blancs, de l'élite un peu blanche, qui se rebellait un peu contre le système de l'apartheid. C'était Botha à l'époque qui était le président. C'était underground, mais c'est devenu un truc complètement culte, quoi. Et donc ces Sud-Africains étaient persuadés qu'en fait Sugarman était décédé. En fait, c'était pas du tout le cas, hein. Le type, il faisait des boulots un peu dégueulasses qu'il trouvait pour survivre, quoi. Et c'est seulement à la fin des années 90 qu'il y a deux, je crois, journalistes sud-africains, par le biais d'Internet, qui ont été en contact avec la sœur de Sugarman, qui leur a dit que il était toujours vivant, je vais vous le passer, là, il est à côté dans la pièce. Et voilà, et ça a relancé sa carrière. Et donc, Soggy, c'est exactement la même histoire, hein. Donc, c'est-à-dire, ils ont... Alors, c'était un groupe qui était un peu en avance, je dirais, au niveau de la forme, assez sauvage, donc qui faisait...
un peu peur à la ménagère, entre guillemets, non ?
C'est ça, hein, c'était... leurs idoles, leur inspiration, c'était des groupes comme les Stooges ou le MC5, hein, donc des groupes de Détroit, qui faisaient une musique qui reflétait un peu le paysage industriel de Détroit, donc un rock sauvage et fort. Et notamment Beb, il était scotché là-dessus, hein, notamment sur Iggy Pop, voilà. Et donc, à l'époque, ces groupes-là n'étaient pas forcément très très connus en France, hein, je parle du début 80. Et donc, ils s'en sont inspirés et ils ont essayé de faire... ils se sont vraiment donnés à fond, hein. Ils ont mis le paquet, ils ont acheté du matériel, ils ont essayé de tourner, ils ont démarché auprès des maisons de disques, mais... Ils ne chantaient pas en français, donc ça n'entrait pas dans les petites cases des prods. Et c'était quand même assez sauvage, hein. Faut reconnaître que c'est assez violent leur musique. Donc au bout de deux ans, ils ont arrêté, quoi. Beb est devenu jardinier. Mais bon, je laisserai la parole aux deux musiciens que tu vas rencontrer. Donc il y aura Beb, le chanteur, Patrick Bertrand, et Olivier Engrave. Donc, qui était le batteur et accessoirement le réalisateur du documentaire qui sera projeté le 13 décembre.
Comment ça va se passer le 13 décembre ? Est-ce que il y a que la projection ou il y a un petit temps, pourquoi pas, de rencontre avec Beb, avec Olivier qui a réalisé pour poser ses questions ? Est-ce que tout le monde peut venir ?
Bien sûr. Alors, c'est entrée libre dans la mesure des places disponibles. On a une cinquantaine de places. Donc, il faut se pointer, je dirais, un peu avant 14h30 pour être sûr d'avoir de la place. Et effectivement, après la projection, il y aura un débat à la bonne franquette. De surcroît, on aura un troisième musicien, le quatrième malheureusement étant décédé, un garçon dont j'ai oublié le nom, hein, qui était le bassiste. Donc on aura la chance d'avoir Eric Dars, qui était le guitariste là, et qui est parti bosser dans le midi. Et donc à l'occasion de cette projection, on aura le plaisir de la voir. On aura une belle brochette des musiciens de Soggy, quoi. Prêt à répondre à vos questions et...
Vous aurez le plaisir le 13 décembre prochain à 14h30 donc de voir ce documentaire Soggy, un truc de dingue, et de rencontrer à l'issue de cette projection les musiciens. Et figurez-vous que j'ai également eu le plaisir de rencontrer Patrick Bertrand alias Beb, chanteur du groupe, et Olivier, drummer, Engrave, batteur et réalisateur de ce documentaire. Avant qu'il réponde à mes questions, je vous propose qu'on écoute un petit morceau des Soggy, le fameux Waiting for the War.
Hey!
oui, vous avez certainement reconnu les Soggy avec Waiting for the War sur Radio Primitive. On réécoute ce classique rémois car le groupe sera présent lors de la projection du documentaire Soggy, un truc de dingue, le 13 décembre prochain à la médiathèque Croix-Rouge. Pour Radio Primitive, Beb et Olivier, le chanteur et batteur du groupe, reviennent sur cette histoire incroyable.
Ça a failli tomber dans les oubliettes, votre histoire, et puis au final, pas du tout. Il y a eu un revirement de situation incroyable. Internet, il n'y est pas pour rien quand même.
Il y a le bon côté, des fois. Il y a le bon côté, c'est une rumeur.
Ouais, hein, ouais. En fait, Internet, ce qui s'est passé, c'est que c'est un journaliste de France 3 local qui a remis le clip « Waiting for the War ». Et là, ça a buzzé, effectivement, ça a pris. On s'est rendu compte, effectivement, que c'était passé très rapidement à 80 000, 150 000, etc. En cumulé, hein. Certainement, donc, beaucoup de gens ont entendu ce morceau ou l'ont vu. En tout cas, ils ont vu le clip dans le monde entier, finalement. Et on se rendait compte qu'il y a plein de gens qui connaissaient Soggy un peu partout dans le monde. Alors, moi, j'ai plus connu ailleurs qu'ici, quoi, en fait. États-Unis, Japon, Australie, Brésil, enfin, il y avait des fans un peu partout. Et ça s'exprimait justement sur le fil et les réactions par rapport au clip. On a été les premiers surpris, hein. On s'est dit « Waouh, c'est dingue !»
Un truc de dingue.
C'est donc aussi par Internet que le morceau va être vu par le groupe The Shrine, le groupe de Los Angeles, et qui va décider de faire une reprise. Alors une reprise sans nous contacter, sans nous demander quoi que ce soit, sans comprendre les paroles. Parce que bon, tout n'est pas super compréhensible, etc. Il y a un petit peu côté un petit peu yaourt hein, dans la, dans la prononciation la française, en tout cas de l'époque. Et l'espèce de franglais, c'est de l'anglais, ça restait quand même. Et donc ils comprenaient pas bien tout. Et donc ils ont fait évidemment le texte dessus. Vous étiez fort de voir, il y est. Mais dans les couplets, il y a des petites erreurs. Forcément, vous n'avez pas le texte. Donc voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait. En tout cas, eux, ils ont fait ça. Et puis là, je laisse Beb raconter la suite, parce que finalement. C'est Beb qui va découvrir que le disque existe et il va essayer de rentrer en contact avec eux.
Ah, c'est un ami stalker. Bon, il commande souvent sur Internet. Moi, j'ai pas de carte bancaire, rien. Alors, il voit ça un coup sur le net, tout ça. The Shrine, Waiting for the War en maxi 45 tours, trois couleurs, tout. C'est un fanatique. Il dit il faut l'avoir, tout ça. Alors, il commande ça donc à Los Angeles. Alors, on paye deux fois le disque, forcément, plus deux fois le port. Alors, on reçoit le disque. Oh, il n'y en a qu'un. Stalker est arrivé. Ah, Stalker, alors, il renvoie ses emails maintenant. Hein. Tu téléphones plus. Il envoie un mail comme quoi qu'on avait commandé deux disques, on n'en a reçu qu'un. Il répond, non, on a bien tout envoyé. Alors, j'ai dit, bon, tu dis que c'est pour le... Le chanteur de Soggy, c'est un chanteur de Soggy. Il écrit ça, tout ça. Oh, tout de suite, ça a été mieux. Ça te gagne. Il nous a envoyé le Maxi 45 en nous demandant si vous ne pouvez pas prendre une photo avec le fameux Maxi 45. Vous croyez qu'on était mort à 35 ans après. On a envoyé une photo, tout ça, puis ça s'est même enchaîné, c'est un truc de dingue. Ils nous ont renvoyé donc le Maxi 45, un truc de dingue. C'est marrant quand même. Puis après, ils nous ont recontacté après pour aller jouer au Trabendo. Juste l'année d'après, ça c'était fin 2014.
Oui, ouais. 2015, ça, c'était il y a 10 ans.
Ouais, ils ont fait une tournée européenne et ils nous ont contactés. Juste après ces attentats, hein. C'était le vendredi 13, les attentats. Ils ont fermé les salles 14, 15, 16. Bon, 17, c'est mort, mais ils ont ouvert le 17. C'est quand même, c'est un signe de temps quand même. On ne croyait pas au dernier moment. Puis on a été joué là-bas, puis ça s'est pas trop mal passé. Hein. Ouais. C'est bien passé.
Il y avait une émotion dingue, hein, suite au bataille.
On avait les bouts.
On se rend compte de la pesanteur et les gens qui allaient au Trabendo. Une espèce de communion qui s'est faite. Et leur bébé allait trouver des mots. Vachement bien sur scène, et ça avait vraiment...
Moi j'avais fait un texte.
C'était une belle prestation. D'abord, ils ont dit à Beb, écoute, nous on va faire le Hellfest, est-ce que ça t'intéresse? Et donc, juste avant le Hellfest, il y avait aussi le Download, et donc en une semaine, il s'est retrouvé deux fois sur scène, Download et Hellfest avec Shrine, et pendant ce temps-là, il y avait l'idée effectivement de... bah, peut-être de faire quelque chose en plus et, avec Beb et les Shrines. Et suite au Hellfest, ils se sont dit bon, bah, pourquoi tu viendrais pas quoi, nous voir. Bon, alors là, c'est là où est intervenu le crowdfunding pour qu'on puisse le faire.
Et tu penses que, alors je sais que tu n'as peut-être pas de vue sur qui a filé des pépettes pour ça, mais des Rémois qui avaient à cœur aussi de ouais. Ouais, c'est quand même un
principalement, c'était quand même énormément de gens qui nous connaissaient quoi. Ouais. Bon, c'était quand même les sphères proches, quoi. Il y en a qu'on donnait, effectivement, sans connaître l'histoire, mais ça restait, encore une fois, si ça avait été un crowdfunding aux États-Unis en disant... bien sûr, c'est international, un crowdfunding, mais visible aux États-Unis en disant... Est-ce que vous voulez dire, ou est-ce que vous voulez voir Beb chanter avec les Shrines chez nous? Je pense qu'on aurait eu des Américains, parce que quand on voit la réception qu'on a eue...
On était bien... bien reçu,
Las Vegas,
hein,
oui, c'est un truc dingue. Hein. Comment s'appelait le festival? C'était le Psycho, Psycho Las Vegas.
Ouais, Psycho. Ouais,
quand on voit Beb, comment il était reçu par les Américains.
Oui, je vous surpris. Vous connaissez avant.
C'était des fans, quoi. Des fans. Ça a laissé des traces. Pas ici, mais alors là-bas. Et puis entendre le public américain hurler Sugi, Sugi, Sugi.
Ouais, on me l'aurait jamais cru ça.
J'imagine.
Ouais, c'est quelque chose.
C'est ce retour sur le devant de la scène, cet événement surprise, qui a fait l'objet du documentaire réalisé par Olivier.
Et en fait, le film va sortir en 2018, parce qu'en fait, il y avait des histoires de financement. On essayait de faire ça avec une plateforme qui s'appelait Spicy, donc qui est une plateforme spécialisée dans le documentaire, qui est française, donc pas des moyens extraordinaires, c'est pas Netflix ou je ne sais quoi, mais bon bref. Ça a quand même permis de faire les choses, d'être vu sur cette plateforme. Et après, c'était l'idée de faire un film, cette fois-ci cinéma. Et là, vraiment, tous les feux étaient ouverts. J'ai été contacté par un producteur parisien qui annonçait même... c'était un des films qu'il voulait faire. Donc, on avait développé un scénario. Je l'ai payé pour, avec une scénariste, etc., sur l'histoire du groupe, de Beb, pour faire un film d'une heure et demie pour le cinéma. Et malheureusement, avec le Covid... Ça a fait plouf. On avait la distribution internationale, France Télévisions, Canal était intéressé. Ben c'était tous les feux étaient verts. Il manquait juste le distributeur cinéma. Et comme c'est une industrie du documentaire cinéma un peu fragile par rapport aux grosses majeures, bon ben eux ils ont pris cher sur le Covid et ça a fait plouf à ce moment-là.
Allez, pas loin.
Et au final, on regardait le documentaire aujourd'hui, il continue à tourner. Et je pense qu'il y a quelque chose chez les Rémois. En arrivant à la bibliothèque tout à l'heure, il y a quand même un collègue de Fred qui m'a dit « Ah, moi, Sugi, je l'ai vu en concert il y a longtemps et tout, mais ça me parle. » Il y a quand même, vous êtes présente dans la mémoire des Rémois. Après toutes ces péripéties, qu'est-ce que ça vous fait d'être encore quand même la mémoire du rock à Reims quand même, quoi, enfin...
C'est un miracle. C'est un miracle.
C'est France Inter qui a fait une émission, j'étais sur... Ils devaient faire ça dans plusieurs villes, et sur Reims, il y avait trois groupes qui ressortaient pour imager l'histoire du rock à Reims. Donc, c'était Lionceau dans les années 60. Il y avait Sugi sur la 70-80, parce que finalement on avait démarré en 77 par là, etc. Ouais. Et le troisième groupe pour les années 90, c'était The Shoes. On s'était fait notre histoire, comme on l'a fait, mais il y avait évidemment plein d'autres groupes à ce moment-là sur Reims. Ça fourmillait de partout, c'était tout le monde tentait sa chance. Rock français, voilà. Sauf que nous, rock français, c'était rock français chantant en anglais et ça ne suivait pas au niveau des maisons de disques. Quoi. Tout le monde devait chanter en français comme Trust, Téléphone, Océan, etc. Après, il y avait un énorme décalage entre ce qu'on proposait musicalement et le public. Et ça, après coup, on se dit « Ah ouais, c'était vachement bien » ou pour certains, ils pensent ça en disant « Ah ouais, quelle pêche !» Mais bon, il faut se rendre compte du contexte des années 70, la deuxième partie des années 70. Il n'y avait pas de salle. Quand tu faisais des concerts, tu te retrouvais dans des MJC. Et les MJC, c'était plutôt à un public progressif rock, un peu baba.
C'est tranquille, hein.
Très violent, entre, c'est un peu du Manson, entre Black Sabbath et Iggy, et donc forcément, là, c'était quand même quatre fous furieux qui arrivaient sur scène, parce qu'on dit toujours bébé, bébé, mais il y avait quand même les trois autres, c'était une énergie dingue, quoi. Alors, quatre personnalités, Beb c'était l'aîné, voilà, on a construit le groupe autour de lui.
Et je sais qu'il y a quand même des influences, Iggy, vous l'avez mentionné plusieurs fois, mais vous en avez pas, t'en as pas marre de te faire comparer à lui. En
fait, ça t'ennuie pas. C'est marrant, c'est cool, c'est sûr. Hein. On est tous inspirés par quelqu'un, de toute façon.
Ouais, bien sûr.
Bon, ouais, on se rappelle de nous comme ça, nous compare un peu au. Sabbath, les Soudjis, le son des Troyes. C'est le son des Troyes, moi j'étais pas mal traumatisé par ça. Quitte à faire un concert, faut aller le faire à fond, terminer en civière. Les gars, ils sont partis en civière, les conneries.
Beb et Olivier Dessauguy reviennent pour Radio Primitive sur la scène rock des années 70-80 à Reims et la comparent à celle d'aujourd'hui.
Vous êtes encore emballé par cette scène rock ou vous êtes peut-être un peu détaché aujourd'hui de tout ça ? Est-ce que vous suivez ce qui se fait en local encore ou pas du tout ?
En local, t'as une paire de groupes qui sont pas mal, j'étais surpris. Hein. C'est Tendinite par exemple. Tendinite, j'étais surpris. C'est les petits jeunes, sans voix. Hein. J'ai été les voir au vieux de la vieille, je crois, ils ont passé, c'est vraiment bien. Hein. Les gars, un bon son. Ah oui, oh, t'as des trucs death metal, j'aime bien, Occultiste, tout ça, les anciens groupes aussi, avec Amen, le chanteur Amen. Oh, ça rentre dans les gueules, ça c'est fou furieux, un hein. Dingue, c'est des Stooges. Hein. Il est mort à 59 ans, hein. Mais bon, c'est quand même quelque chose. Ah oui, t'as quand même pas mal de groupes, on va aller voir Expatid. Expatid, il tourne encore. Zygonstock, c'est un truc de dingue, ça. Zygonstock, Boiti, 68, il n'a pas bu que du lait de chèvre, le bordel.
Mais chaque période, je veux dire, quand fin des 70 avec le rock, moi je voyais la génération au-dessus, c'était plus le jazz, quoi, de mes parents, hein, j'entends.
Mmh. Ah, c'est plus tranquille, hein, c'était
plus rock, il n'y a plus que ça, nanana, c'est le primaire, c'est ceci, c'est cela. Mmh. On va dire la même chose du rap en étant rocker. Bon, et puis bientôt, le rap, ça sera remplacé par autre chose. Mmh. Bon, voilà, alors après. Attention, un tiers des musiques proposées sur les plateformes comme Deezer, etc., c'est déjà l'IA qui la crée. Alors, l'histoire de la musique, là-dedans, ça va être compliqué. Et par contre, par rapport à l'histoire du rock, moi, je trouve que, évidemment, qu'il y a encore des groupes, etc., mais de fait, par le merchandising et puis les habitudes des consommateurs, les gens ne vont pas se focaliser sur un groupe et créer tout d'un coup une entité. Ah, on aime tous Led Zeppelin, on aime tous ceci, cela. Non, maintenant, passe d'un morceau à un autre, ils vont pas écouter un concept album, et voilà. Donc la méthode d'écoute a changé, et là-dedans le rock c'est pas évident, voilà, où elle est sa survie, je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que par les femmes, je trouve qu'il y a eu une émergence du rock. Mmh. Et forcément, parce que je pense que le rap a repris les mauvaises habitudes du rock au tout début, très, très machiste. Et en fait, le rock s'est féminisé et les femmes ont été de plus en plus présentes.
Mais tu vois, quand tu vas au festival de métal, jamais d'embrouille. Tout le monde se connaît là. T'as des gamins, je sais pas, de 10 ans qui viennent jusqu'à des gens comme moi, c'est moi l'ancêtre là-dedans en général.
Alors qu'on dit que c'est des musiques extrêmes.
Ouais, concert punk, les gars, ils ont les piercings, les machins, ils tombent, parce qu'ils veulent t'offrir des bières, les machins, c'est vraiment bon enfant. Oui, parce qu'avant.
Quand même, ils commencent à aller dans le public, les gens, en fait, nous le voyaient, parce qu'on est sur scène. Vous voyez bien que les gens, ils balisaient, quoi. Ouais. C'est ça aussi, il faut bien se rendre compte. Parce que maintenant, ah ouais, elle est marrante, la vidéo, etc. Ouais. Mais le ressenti des gens, c'était waouh. Ah ouais, c'est bien, mais pourvu qu'ils ne se rapprochent pas trop de nous. Ah merde, il descend de la fosse, il va dans la fosse. Ah merde, il vient sur nous. En rencontre, bon, allez, vas-y, que je vais sur le public et tout. Bon, ça crée des gros malaises, hein, quand même. Ouais. Les gens, ils balisaient. Donc, il y avait ce côté-là un peu, on va dire, un groupe un peu dangereux, quoi.
C'était tout tranquille, hein, mauvais que du latte.
Ceux-là, on était un groupe assez propre, par rapport à la scène rémoise. D'ailleurs, moi je dis toujours, hein, quand on avait trois groupes qui répétaient aux anciens établissements économiques, là.
Ah ouais, au Doc.
Donc il y avait Rockin' Chair, Cairn et Segui. Il y avait 16 musiciens. Il y a 10 ans, il en restait déjà plus que 6.
Ouais.
Et sur les 6, il y avait 3 Segui.
Ouais, c'est pas
tous
mal.
Les autres. Voilà, consommation, bidule, ce que tu veux, etc.
Ah ouais, c'était...
Le résultat des courses, c'est que le rock, c'est dangereux, ça c'était dangereux, et tout ce qui était véhiculé avec, quoi, donc ouais. Le mode de vie et tout. Et finalement, bah, nous, on était assez clean, quoi. C'était plus clean des quatre. Et pourtant, c'est celui qui paraissait le plus dingue.
C'est rigolo.
On était en transe, quoi, en fait. Et d'ailleurs, les répètes de Segui, c'était un spectacle, quoi. Les gens venaient, parce qu'en fait, elle était grande, cette salle.
Elle était énorme,
c'était une soirée économique, et il y avait vachement de gens qui venaient voir les répètes. En fait, c'était un concert, quoi. Alors, on a mis du temps, d'ailleurs, à se dire, bon, allez, maintenant, on va répéter vraiment. On arrête de donner des concerts en répète. Et voilà, quoi.
Vous l'avez compris, c'est un rendez-vous à noter sur votre calendrier. La diffusion du documentaire Segui, un truc de dingue, c'est le samedi 13 décembre à 14h30 à la médiathèque Croix-Rouge au 19 rue Jean-Louis Debar. C'est gratuit et le groupe sera présent pour échanger avec le public. Je tenais à remercier Fred, Olivier et Beb d'avoir mis un petit peu de temps de côté pour revenir sur cette histoire pour nous, une incroyable aventure musicale qui n'est peut-être pas encore terminée, seul le temps nous le dira. So